ça arrive sur la route, vous êtes parti, vous avez fait 20 km et vous sentez que la naissance est imminente, ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de reculer le plus possible votre siège et éventuellement poser le pied sur le tableau de bord pour avoir un petit appui et laisser faire les choses.
Il y avait 1369 maternités en France métropolitaine en 1975. En 2018, il en restait 471, trois fois moins. La fermeture massive de maternités correspond, selon la doctrine des gouvernements successifs, à un impératif de sécurité. Il s'agit de concentrer l'offre de soins sur des établissements de taille plus importante, ayant une pratique plus régulière et mieux dotés en plateau technique. Moyennant quoi, selon la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, 8% des Françaises en âge de procréer résident à plus d'une demi-heure d'une maternité.
La première maternité du Lot, du coup, est à 1h30 de route. Donc on avait prévu d'aller sur Aurillac, dans le Cantal, qui est quand même à 1h. Ça fait quand même déjà pas mal de route pour aller jusqu'à la maternité.
Fin 2020, le nombre total de lits d'obstétriques est passé, pour la première fois, sous le seuil des 15 000. On entend donc assez régulièrement parler d'accouchements réalisés dans l'urgence, par les pompiers, parfois par les papas, sur les bords des routes, voire au domicile des parturientes.
Dans ces territoires, il faut être capable, en plus d'arriver à conforter l'offre de maternité, il faut être capable de développer toutes les solutions qui permettent d'éviter ce qu'on appelle des accouchements inopinés extra-hospitaliers, c'est-à-dire toutes les situations où, pour des raisons X ou Y, une jeune maman se retrouve en situation d'accoucher alors qu'elle n'est pas sur un site hospitalier.
L'adresse souligne une forte dégradation de l'offre, notamment dans des départements ruraux comme le Cantal, la Nièvre ou le Lot. Maternité rurale en voie de disparition, c'est un reportage de Magali Lacombe avec une prise de son de Lucien Lefebvre.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour.
Nala.
Allez-y, c'est bohème. Elle dira rien.
Bonjour.
Bonjour.
Magali de France Inter.
D'accord. Noémie.
Et vous n'êtes pas toute seule puisque vous nous accueillez avec votre bébé.
Voilà, avec Léopold.
On vous suit ?
Hop.
Alors là, vous êtes avec votre petite fille aussi ?
Oui, qui s'appelle Rose, qui a 2 ans. Oui, à ton frère. Tu vas t'asseoir, s'il te plaît. Non, pas tout de suite. Je m'appelle Noémie, j'ai 24 ans et je suis la maman de 2 petits, Rose et Léopold, qui est né à la maison, juste là.
Sur ce canapé.
Exactement. Ça a été un peu la surprise, on n'aurait jamais cru que ça puisse aller aussi vite. Il faut savoir qu'actuellement, on est en train de rénover une maison à une 20 km d'ici. Donc, avant d'accoucher, j'étais en train d'arracher de la tapisserie. Et puis, j'ai perdu les os. Donc, je dis à mon mari, bon, ben, on y va, on rentre à la maison, je prends une douche et on part à la maternité. Ma maman vient récupérer notre aîné, du coup. Et me voilà partie sous la douche. Monsieur préparait les dernières affaires, commençait à charger la voiture. Et puis, donc au moment où je sors de la douche, énorme contraction. Et puis je lui dis, écoute, on va pas partir. Il me dit, mais pourquoi ? Parce que je sens que c'est là, que la tête est là. Donc je lui demande d'installer les bâches qu'on avait. Et heureusement qu'on était en travaux, parce que je voulais pas abîmer mon canapé. Donc je lui demande d'installer les bâches sur le canapé et de préparer les serviettes qu'on a, parce que il fallait de quoi pour accueillir ce bébé. Et le temps que je vienne jusqu'au canapé, la tête était là, c'était le moment de pousser. Donc sur ces entrefaites, il appelle les pompiers. Donc le temps d'avoir les pompiers, finalement, la tête était dehors. Donc il a mis l'haut-parleur du téléphone du coup pour communiquer avec les pompiers et il a attrapé une serviette et il s'est juste positionné en dessous pour réceptionner Léopold. Donc après les pompiers nous ont passé la sage-femme qui demande à mon mari alors ça en est où ? Et donc à ce moment-là il lui répond que c'est terminé, qu'on est installé et que le petit est en train de téter.
Et la première maternité quand on habite comme vous à Bagnac-sur-Célé dans le Lot, elle est à combien de temps ?
Alors, la première maternité du Lot, du coup, est à 1h30 de route. Donc, on avait prévu d'aller sur Aurillac, dans le Cantal, qui est quand même à 1h. Donc, pour moi, c'était quand j'ai senti qu'il était là, que c'était le moment. Il était hors de question de prendre le risque d'accoucher sur la route. Je trouvais ça beaucoup trop dangereux. Donc, j'ai pris la décision de rester sur mon canapé, confortablement installé, on va dire, plutôt que, voilà... C'est pas qu'on s'était préparé, mais on en avait parlé avec la sage-femme. Elle nous avait quand même, entre guillemets, aiguillé. Elle avait surtout rassuré le papa, qui lui était très très stressé à cette idée-là par contre. Moi j'ai grandi ici et c'est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup de routes à faire pour tout. Enfin, au départ, il y avait des maternités à proximité, mais à partir du moment où elles ont fermé, ben, on s'est tout de suite mis en tête que ben, il y aurait de la route à faire pour aller donner naissance à nos enfants. Donc voilà, c'était ancré, on va dire.
Salut,
Rose. Tu dis au revoir.
Salut, Paul.
Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel.
Urgence pompiers, j'écoute.
Oui, je viens d'accoucher à la maison et j'ai le bébé à la main.
D'accord, je vais vous envoyer les pompiers, madame.
D'accord, on arrive tout de suite.
Les pompiers, bonjour.
On arrive tout de suite.
Quelle adresse ?
Est-ce qu'il y a déjà eu des vécus de prise en charge de femmes en situation d'accoucher, tant qu'on est là ?
La chance d'avoir Nathalie aussi au centre, donc c'est assez stressant quand même. On était parti, elle n'a pas accouché dans l'ambulance, elle a accouché à la maternité, mais voilà.
Situation qui était aux alentours de la Tronquière ?
À la Tronquière, avec de la neige en plus.
Évacué ?
En plein mois de décembre. Évacué sur Serge d'Auriac.
Serge d'Auriac, donc un délai de route d'environ 40 minutes ?
45 minutes.
45
minutes. Voilà.
Andy ?
Nous, elle venait tout juste d'accoucher dans les toilettes. Donc c'était commune de Bégousse. Donc prise en charge rapide, on n'avait pas de moyen médical pour l'instant sur les lieux. Donc prise en charge, cordon, réchauffement et de suite urgence.
Okay. On vous propose de vous asseoir, petit café à la main, tour de table de réactivation, on met les diesels en fraîcheur.
Depuis 5 ans, les pompiers du Lot forment leurs volontaires pour intervenir en cas d'accouchement inopiné. Nous allons suivre l'un des exercices Grandeur Nature, réalisé grâce à un mannequin qui permet de simuler l'arrivée du bébé pour tester précisément la réaction des secouristes en cas de difficulté.
Alors finalement, bah, vous avez eu une médicalisation, le médecin du SMUR, il a réussi à remonter un petit peu le cordon. Et puis il vous dit, bon bah là, je suis désolée, mais on est bipé sur un arrêt cardiaque. Vous transportez là rapidement. Ok. Et sur le trajet, bah, la dame elle vous dit non mais là vraiment ça pousse. Hein. Moi je vous dis que ça pousse. Là moi j'ai qu'une envie, c'est pousser. Et bien là d'ailleurs je vais pousser. Donc là elle pousse.
C'est les fesses qui arrivent et ça descend bien là.
Les fesses en haut.
Les fesses en haut.
Là ça pousse fort.
Les fesses en haut par côté.
Elle pousse.
Et pousser madame. Allez-y.
Cette fois, le scénario, c'est une équipe en route vers la maternité lorsque l'accouchement débute, avec un nourrisson qui se présente par le siège, ses fesses en premier.
Continuez.
On va voir que les gestes sont encore un peu hésitants face à un nouveau-né qui, par ailleurs, souffre d'une légère gêne respiratoire.
Ça va, madame ?
Oui.
Les débriefings de la sage-femme formatrice sont d'autant plus instructifs.
Vous sentez qu'il descend, là ?
Et là, ça pousse, hein, mais... Ça bloque, j'ai l'impression, là, il arrive pas mon bébé là.
Là, il arrive presque. Allez-y, madame, au niveau de la tête et des bras là, madame.
Allez-y.
Alors, on arrive à la tête, madame. Là.
Allez-y, madame. Allez.
Continuez.
Allez, encore un petit effort.
Ouf.
On y est là.
Allez-y madame, encore un petit effort.
On a les mains, voilà, il est là.
Voilà.
On va le réchauffer.
Mais il pleure pas mon bébé là.
Il pleure pas ?
Pourquoi il pleure pas mon bébé ?
Il pleure pas ?
Il y a la sage-femme qui m'appelle, je suis en relation avec elle.
Donc
le bébé
est
là. Est sorti.
Oui. Il pleure pas par contre.
Il pleure pas.
Non.
Il pleure pas.
Okay. Il pleure pas.
Ça fait 40 respirations avec le bavu à l'air.
Il pleure pas mon bébé.
On va le nettoyer au niveau des voies aériennes.
On va le dire.
Vas-y. On aspire.
Ouais. Aspire-le.
Alors je le contacte à sa femme.
C'est pas normal ça. Pourquoi il pleure pas mon bébé ?
Elle me dit quoi faire.
Non, il pleure toujours. Non, il pleure pas. Je vais pas pleurer moi, mon bébé là. C'est pas normal hein.
Bavu, bavu.
Ok, le bavu à l'air libre.
Allez, maman. Allez, allez. Allez.
Allez, bébé.
Bien évidemment,
mais
elle a dégagé
site,
de la mer.
Hein. Ouais. Ah oui. Peut-être c'est dans l'ambulance, il y a le cordon.
Il y a le cordon.
Ah. Voilà.
Tu pleures ?
C'est moi ?
On pourrait dire que, voilà, il a récupéré. Voilà.
Voilà. Tenez, madame.
Merci, monsieur.
Bravo.
Ah ben, je t'inquiète quand même.
Et là, sur le bonnet.
Voilà.
Et on repart, là, plutôt. On arrive à l'hôpital.
On a revu, voilà,
parce que,
ouais, bon, il y a quand même trois quarts d'heure de route, hein, les enfants.
Oh, mais ça passe vite, madame.
Ouais, mais ça, on roule vite, les pompiers.
Bon,
là, on s'est un peu arrêté quand même dans le SAV hein, pour faire l'accouchement,
oui,
j'espère.
Oui.
J'ai pas entendu. Donc, si t'es reparti, que le papa a suivi dans la voiture, éventuellement, tu peux le faire revenir pour garder bébé en peau à peau et toi t'occuper de maman. Mmh. Hein. Maintenant, il n'y a personne d'autre, et ben, il y a un équipier qui va peut-être se dédier à faire porte-bébé kangourou, quoi. Là. Ok. Des questions ?
Il n'y a plus que Cahors en matière sur le département ?
Oui.
Je suis Jessica David, je suis infirmière actuellement en hospitalisation à domicile. Je suis rentrée chez les pompiers comme infirmière sapeur-pompier volontaire en 2014, donc ça fait presque 8 ans. Et j'étais à la caserne de Leim, donc dans le nord du département, où effectivement c'est le désert de maternité. Et actuellement je suis infirmière sapeur-pompier volontaire sur le centre de Catus.
Vous avez eu l'occasion de participer deux fois à des accouchements inopinés, l'un dans une ambulance, l'autre au domicile de la future maman.
Alors, je ne suis pas maman et c'est déjà quelque chose du coup que j'appréhendais beaucoup. C'est une situation qui ne se présente pas tous les jours. Et quand on est confronté à la situation, c'est vrai qu'il ne se joue pas une seule vie en fin de compte, mais vraiment deux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent un petit peu la pression par rapport à ça. On a beaucoup de chance d'avoir des sages-femmes, un peu plus de malchance de ne plus avoir autant de maternité qu'avant. C'était quand même une grosse plus-value et c'est vraiment dommage que ce genre d'établissement ferme. J'ai été primo-intervenante pour le premier accouchement inopiné que j'ai réalisé avec Nathalie. Et c'est juste extraordinaire parce que je suis arrivée, j'ai fait mes premiers soins d'infirmière, j'ai posé mes premières questions. Et de la petite fenêtre de l'ambulance, je vois le véhicule avec Nathalie, donc sage-femme, qui arrive. Et là, je me dis, là au moins, ça va apaiser les choses et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et elle arrive et effectivement, elle constate que la tête est là et que l'accouchement va se faire là. Donc elle fait, non, là, on part pas. On reste là. Et là, je me dis, ah oui, je vais vivre mon premier accouchement en tant que pompier. Waouh. Et il est né un petit Sohan, donc c'était vraiment... C'était vraiment génial.
Est-ce que quand on est sapeur-pompier volontaire dans un département où il n'y a plus qu'une seule maternité, ça fait partie des choses auxquelles on pense, des interventions sur lesquelles on se projette ?
Ah bien sûr, bien évidemment. Ça fait partie des interventions sur lesquelles de suite on communique énormément. Des interventions où les futures mamans accouchent même sur l'autoroute. C'est arrivé. Pour moi, ça ne devrait pas, ça reflète un petit peu notre système de santé aujourd'hui. Mais on essaie de trouver des solutions pour pallier à ça et que les futures mamans puissent accoucher dans les meilleures conditions possibles.
Alors imaginons, la femme elle est en train d'accoucher. Le bébé n'est pas totalement sorti, on voit juste la tête. Et elle fait un arrêt cardiaque.
C'est quand même exceptionnel ce que tu me racontes là.
Oh, c'est à force de pousser, trop de pression, le cœur a une fragilité au cœur. Et ça peut...
Alors qu'est-ce que tu vas faire ?
Et quelle est la priorité ?
La maman. Ah.
Voilà.
Et si on pousse et le bébé, il peut faire flouche. Ça peut entraîner aussi du coup à l'accouchement, on peut pas tirer le bébé pour au moins le sauver lui et tout en massant.
Il va faire un arrêt aussi.
À partir du moment où
le bébé,
la maman est en arrêt.
Oui. Le bébé du coup, il a plus d'oxygène. Donc si le bébé sort un peu, on peut prendre la tête délicatement, tourner. Pour le sauver.
Imaginons.
Non,
mais c'est bien que tu
poses la question. Après, on vous l'a dit, on ne peut pas vous faire tous les cas possibles, mais la probabilité.
Et puis après, si j'ose dire, ce que vous risquez de rencontrer le plus souvent. Voilà.
Je m'appelle Michel Taillade. Je suis infirmier en chef au SDIS du Lot, en charge donc, de l'équipe du personnel infirmier, également formation secours d'urgence aux personnes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes sur une formation de chef d'agré, c'est-à-dire des responsables d'intervention qui auront la charge de prendre en charge des personnes dans tout type de situation qui présenteront des détresses vitales, des malaises, ou alors, comme aujourd'hui, des atteintes impactant des femmes enceintes.
Cette formation à destination de vos chefs d'agré, accompagnés par une sage-femme, elle-même sapeur-pompier, c'est une formation que vous donnez depuis longtemps ?
Alors, il faut savoir que depuis 2007, hein, l'accouchement fait partie des référentiels de formation, donc ce n'est pas très nouveau. Nous avons eu l'opportunité en 2015 de rencontrer des sages-femmes et de commencer le recrutement. Et puis finalement, beaucoup d'alignements de planètes qui sont fermeture de maternité, regroupement vers un centre unique au niveau départemental, cheminement, et des mamans qui souvent attendent le dernier moment dans de bonnes conditions de suivi extra-hospitalière, mais qui, au moment de l'accouchement, nécessite parfois un transport dans des conditions particulières, c'est-à-dire en termes de délai et de prise en charge.
Est-ce que vous, les pompiers, vous avez été plus sollicités ces dernières années pour des accouchements inopinés ?
On n'a pas fait beaucoup plus, c'est-à-dire que la fermeture des maternités n'a pas été l'explosion de l'activité opérationnelle pour nous, mais on s'est retrouvé avec des sensations parfois d'intervenir à un moment un petit peu plus critique, un petit peu plus pressant, aux minutes qui précèdent l'accouchement.
C'est la raison pour laquelle, à un moment, il vous a semblé utile et nécessaire de faire intervenir des sages-femmes dans votre dispositif.
Donc les sages-femmes, vous l'avez compris, forment nos sapeurs-pompiers. Elles interviennent dès la formation de l'équipier. Elles renforcent les connaissances au niveau du chef d'agré, qui est le responsable opérationnel et qui supervise l'intervention. Elles assurent aussi une astreinte téléphonique. Et pour nous, c'est extrêmement important, puisqu'on peut apporter un soutien à nos équipes qui sont sur le terrain, et parfois même directement le soutien du papa, en attendant l'arrivée des secours.
CODIS 46, quelle est la station qui appelle le CODIS 46 par année ?
Est-ce que c'est un dispositif qui existe dans d'autres départements en France ?
Oui, beaucoup de départements ont cherché des solutions, ont cherché aussi à faire intervenir l'expertise des sages-femmes. Alors, on n'est pas les seuls. On a probablement été parmi les tout premiers à chercher à apporter le soutien protéiforme, je vais dire, dans différentes dimensions, dans la formation, dans l'activité opérationnelle, dans l'astreinte téléphonique, qui est une permanence qui est H24 disponible pour nos intervenants. Peut-être en ce sens-là, mais beaucoup de départements ont souhaité positionner les sages-femmes comme des experts, tant pour la formation que l'intervention.
Et est-ce qu'il peut arriver à certains sapeurs-pompiers d'avoir le sentiment de pallier un manque par rapport à des femmes enceintes qui se retrouvent un peu isolées, loin d'une maternité ?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, la force des pompiers, c'est le maillage territorial. C'est la présence en tout point du département. Département comme le Lot, on compte une trentaine de centres de secours. Donc, c'est pas trop un sentiment de supplétif, puisqu'on pense qu'on est vraiment dans la mission des premières minutes. C'est plutôt une crainte de parfois être insuffisamment équipé ou armé pour pouvoir faire face. Et c'est en ce sens qu'on se doit de toujours augmenter le potentiel en termes de formation et d'accompagnement.
Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel.
On l'a entendu, les pompiers sont amenés à utiliser les compétences des sages-femmes pour les aider en situation, mais aussi pour les former. Nathalie Charbonnier, qu'on vient d'entendre dans cette séance de simulation d'accouchement, est elle-même pompier volontaire. Mais elle est aussi sage-femme libérale à La Capelle-Marival, 1300 habitants, dans le nord du département. Magali Lacombe l'a retrouvée à son cabinet.
Interception sur France Inter.
Le cabinet de sage-femme de Nathalie Charbonnier est à l'intérieur d'une maison de santé. Des maisons de santé comme on en voit s'ouvrir un peu partout dans les départements ruraux pour lutter contre le désert médical. Bonjour, on a trouvé facilement grâce au GPS.
C'est pas passé par la salle d'attente parce qu'il y a déjà du monde.
Merci compris. Alors, ma petite patiente n'est pas encore arrivée, elle doit arriver à 9h30. On vous retrouve donc aujourd'hui en blouse blanche et plus en tenue bleue et rouge.
C'est ça, tout à fait. Bienvenue dans mon cabinet.
Une centaine de patientes chaque semaine dans votre cabinet.
À peu près, oui. Voilà. Je suis Nathalie Charbonnier, sage-femme libérale et surtout sage-femme sapeur-pompier auprès des sapeurs-pompiers du Lot.
Votre mission, elle consiste en quoi ?
Alors, la mission première, c'est de pouvoir intervenir auprès d'une femme enceinte, d'une femme qui est en train d'accoucher, d'une femme qui vient d'accoucher et sur la prise en charge de son nouveau-né. Le deuxième rôle, il est plutôt rôle de formation sur les équipiers. Chaque sapeur-pompier qui rentre au sein du SDIS du Lot est formé à la prise en charge d'une femme enceinte, d'une accouchée et d'un nouveau-né. Et notre rôle, il est de former et de maintenir les acquis.
Vous intervenez chez les pompiers depuis 2015. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer chez les sapeurs-pompiers ?
Alors en fait, il y a plusieurs choses qui se sont un petit peu mises en place. Il y a le fait que, effectivement, en tant que libérale, puisque j'ai commencé mon activité libérale en 2014, je me suis rendu compte un petit peu de la difficulté des patientes et surtout de leur angoisse face au trajet éventuellement à faire, à l'éloignement quelquefois des maternités. Et puis, dans ma famille, voilà, il y a des sapeurs-pompiers qui m'ont assez souvent sollicité en me disant ça serait quand même bien, et du coup j'ai franchi le pas, voilà, tout simplement.
Est-ce qu'à travers les formations que vous donnez depuis quelques années, vous avez pu constater l'amélioration du service rendu, le fait que les pompiers soient plus à même d'intervenir face à des femmes enceintes sur le point d'accoucher ?
Alors je pense que oui, parce que c'est quand même l'intervention pour eux qui n'est pas classique, contrairement à ce qu'ils peuvent rencontrer qui peut être tragique. Là, c'est absolument pas classique et du coup, ça peut les déstabiliser parce qu'effectivement, ça leur renvoie à leur histoire personnelle, à leur histoire familiale, à leurs croyances. Et le fait de savoir que nous sommes disponibles aussi bien en intervention que sur un soutien, ne serait-ce que téléphonique, je pense que pour eux, c'est une bonne béquille. Au départ, il y a eu un petit temps d'adaptation. Hein. On pensait pas systématiquement à nous appeler. Maintenant, je pense que c'est devenu un réflexe. Et honnêtement, il est rare que je fasse des semaines d'astreinte sans être sollicitée.
Vous êtes deux sages-femmes libérales aujourd'hui à organiser cette veille téléphonique. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Comment vous réussissez à intégrer ça dans votre emploi du temps?
Alors en fait, on a un système d'astreinte, voilà, alors on décide, alors généralement c'est plutôt la semaine entière, comme ça c'est plus facile pour tout le monde s'y retrouver. Alors sachant que il y a toujours la possibilité, si la sage-femme d'astreinte n'est pas disponible, d'appeler quand même l'autre, voilà, on ne dit pas non.
Est-ce que selon vous, ces appels en fait ont permis d'éviter peut-être des risques auxquels pouvaient être exposées ces femmes enceintes ?
C'est possible, pas de façon systématique. Il y a toutes les situations en fait qu'on rencontre au niveau des astreintes. Ça peut être la dame un petit peu en panique qui le mari n'est pas là, il travaille loin, il n'y a pas forcément de critères d'urgence. Maintenant, voilà, on est de premier recours au niveau sage-femme et on est de premier secours en tant que pompier.
Sur quel point vous êtes vigilante dans la transmission que vous opérez là ?
J'essaye de leur donner les clés pour pouvoir en fait faire remonter l'information quand il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement. De fait, on n'est pas toujours à côté de la maternité. Et c'est vraiment rendre service à la patiente que de transmettre un événement qui n'est pas attendu pour qu'ils puissent avoir, eux, la bonne conduite à tenir.
Allez-y, allez-y, madame. Allez,
continuez.
Allez, encore un petit effort.
On y est là.
Allez-y, madame, encore un petit effort.
On a les mains, voilà, il est là.
Voilà.
On va le
écouter. Bonjour, allez-y, entrez. Installez-vous. Marina, comment ça va?
Ça va très bien.
En forme?
Oui.
On se voit aujourd'hui pour le cours de préparation à la naissance. C'est votre troisième enfant?
Oui.
Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières quand on fait de partir suffisamment tôt à la maternité? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent un petit peu à ce sujet?
Le trajet fait toujours peur. Surtout un troisième, normalement c'est censé aller quand même plus vite. Donc on se dit, c'est vrai qu'il faut savoir le bon moment pour pouvoir partir. Et c'est pas toujours facile.
Ouais.
Après, c'est vrai que j'ai accouché en février. Donc je me dis ici, le temps aussi.
Oui.
Pour la route, parce que bon, à l'Aurillac, c'est pas l'autoroute.
C'est pas l'autoroute, effectivement. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de comment vous organisez si vous sentez que vous n'aurez pas le temps d'arriver jusqu'à la maternité?
Non, j'ai évité de penser à cette option-là pour le moment.
Alors effectivement, ça arrive sur la route, vous êtes parti, vous avez fait 20 km et vous sentez que la naissance est imminente. Votre mari, vous lui dites de faire le 112 et il sera mis en relation avec les équipes concernées. Bien entendu, dans la voiture, c'est un petit peu plus périlleux parce que l'espace est restreint. Moi, ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de reculer le plus possible votre siège, d'incliner un petit peu le dossier de votre siège et éventuellement poser le pied sur le tableau de bord pour avoir un petit appui et laisser faire les choses. Et là, il n'y a pas de doute que vous serez en relation. Alors, peut-être pas vous directement, mais peut-être que votre mari sera en relation avec la sage-femme d'astreinte qui va pouvoir lui prodiguer les premiers conseils. Ce qui fait qu'aussi, en amont, dans votre valise, vous aurez un petit peu anticipé les choses.
Dites-moi.
Vous mettrez sur le dessus une serviette de toilette et puis une couverture.
D'accord.
Cette serviette de toilette, elle servira à sécher votre bébé lorsqu'il arrivera, s'il arrive de façon inopinée. Votre bébé va sortir d'un milieu 37 degrés et un petit peu plus, tout mouillé, à un milieu où il risque de faire froid en février. Ce qu'on veut éviter, c'est l'hypothermie pour votre bébé. Donc ça passe déjà par sécher votre bébé. On sèche la tête, on sèche le dos, on sèche les jambes, le ventre, on essaye vraiment... On sèche tout. Et surtout de garder ensuite votre bébé en peau à peau contre vous. C'est essentiel. Et quand je dis en peau à peau, c'est vraiment le bébé à l'intérieur en peau à peau. Si le cordon n'est pas coupé, c'est pas très grave. C'est pas une urgence. Que votre mari s'inquiète pas par rapport à ça. Ça se fera à l'arrivée des premiers secours. Et on s'assurera de votre bon état de santé et du bon état de santé de votre bébé aussi.
Bon. Ça fait toujours un peu peur. J'espère que ça ne m'arrivera pas, mais c'est des bons conseils, bons à savoir.
Vous habitez à combien de kilomètres, à combien de temps de la maternité d'Aurillac où vous allez accoucher?
Ouais, une petite heure, on va dire. Une heure. Bon, on se dit, ça serait quand même bien d'arriver à temps. Plus le terme va se rapprocher et plus dans un coin de la tête, quand même, ça va cogiter. Voilà, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de verglas ou de neige. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix, donc on s'y fait.
Merci, au revoir. Moi, je suis arrivée dans le Lot il y a une vingtaine d'années. Il y avait 6 maternités. Là, actuellement, on n'en a plus qu'une. Effectivement, ça fait réfléchir. On se dit, en plus, elle est totalement excentrée pour le département. Elle est dans le sud, ce qui fait que les patientes qui sont dans le nord du département ne vont pas forcément accoucher dans cette maternité-là. On est dans un rayon d'une heure environ entre toutes les maternités qui sont sur le pourtour. Et effectivement, ça pose question. Est-ce que c'était judicieux de fermer toutes les maternités? Est-ce qu'il aurait peut-être mieux valu en garder peut-être une dans le nord du département?
Est-ce que c'est problématique aussi pour le suivi de ces femmes, l'éloignement des maternités au-delà du jour même de l'accouchement?
Ça implique aussi que ces femmes doivent se déplacer pour leur suivi, pour certaines consultations qui ne peuvent pas se faire
chez moi au cabinet. Du coup, ça implique aussi le fait de prendre la route, d'augmenter des risques d'accidents routiers, ce genre de choses. Soit parce que les conditions météo sont pas bonnes, soit parce que, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, oui, pour elle.
Merci, Madame Charbonnier.
Au revoir. Au revoir.
Ce sont les agences régionales de santé qui ont la lourde charge de décider des fermetures de maternité, naturellement en fonction du nombre d'accouchements qui y sont pratiqués. Le Lot fait partie des trois départements métropolitains où la proximité entre les établissements et les patientes s'est le plus dégradée ces dernières années. C'est la raison pour laquelle Magali Lacombe a rendez-vous avec Bertrand Prudhomeau, directeur de l'offre de soins et de l'autonomie à l'ARS d'Occitanie. Il voudrait bien attirer plus de personnel soignant dans sa région.
Travailler sur l'attractivité de ces territoires, c'est d'abord travailler sur l'attractivité des professions elles-mêmes. Et ça, vous savez qu'on est engagé nationalement dans une démarche du Ségur de la santé qui vise à revaloriser les professions soignantes, à les rendre plus attractives et par ailleurs à augmenter le nombre de professionnels formés chaque année. Donc ça, ce sont des mesures de moyen et de long terme qui évidemment ne porteront pas forcément sur chacun des territoires leurs effets immédiatement, mais c'est un travail absolument indispensable. On est évidemment conscient du fait que par rapport à quelques décennies en arrière, les maternités se sont globalement, sur certains territoires, un peu éloignées des zones d'habitation, notamment dans les territoires ruraux, et notamment à cause de ce seuil de 300 accouchements qui est là, il faut le rappeler, pour garantir la sécurité des parturientes et des bébés. Dans ces territoires, il faut être capable, en plus d'arriver à conforter l'offre de maternité, il faut être capable de développer toutes les solutions qui permettent d'éviter ce qu'on appelle des accouchements inopinés extra-hospitaliers, c'est-à-dire toutes les situations où, pour des raisons X ou Y, une jeune maman se retrouve en situation d'accoucher alors qu'elle n'est pas sur un site hospitalier. Et pour ça, il faut évidemment travailler sur la présence de centres périnataux de proximité. Il faut également travailler sur les schémas de transport pour permettre une intervention rapide de moyens de transport sanitaire qui permettent de rapatrier au plus rapidement la jeune maman vers une maternité. Il faut aussi travailler sur la formation des professionnels de premier secours, de manière à ce que si ces situations se produisent, et elles se produisent, rarement, mais elles se produisent, l'accouchement, malgré tout, ait lieu dans des conditions de sécurité suffisantes. Il y a des études du ministère qui datent de 2016 qui disent que l'incidence des accouchements inopinés extra-hospitaliers, c'est à peu près de 0,6%. Bon, c'est un chiffre, c'est une estimation, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, mais ça reste relativement rare. Donc il faut absolument, outre le fait de conforter l'offre, il faut être capable d'avoir des professionnels de premier secours qui soient en capacité d'intervenir. Et le fait que les pompiers se forment, le fait que les urgentistes se forment, c'est tout à fait positif et ça ne va pas à l'encontre d'une démarche de renforcement de l'offre de périnatalité, c'est tout à fait complémentaire.
Ça ne vient pas remplir une carence.
L'idée, en tout cas, c'est absolument pas de se dire on renforce la formation des professionnels de premier secours, comme ça on pourra fermer plus facilement des maternités. C'est absolument pas le sens de la démarche.
Pendant ce temps-là, dans une lettre ouverte, les sages-femmes dénoncent avoir été les oubliées du Ségur de la santé. Elles racontent avoir été exclues des négociations et demandent à être reconsidérées. En France, on compte 23 000 sages-femmes.
La revalorisation qu'on y a eue grâce au Ségur de la santé est de 183 euros parce qu'en fait, elle s'est appuyée sur des fiches, enfin sur des tableaux, pardon, de profession paramédicale alors qu'on est une profession médicale.
Une prime de 100 euros net et une hausse de salaire d'environ 100 euros brut par mois. C'est ce que les sages-femmes travaillant à l'hôpital toucheront à partir de janvier.
On nous dit que c'est 183 euros. Les 183 euros, ça nous place en dessous de la moyenne européenne. La France est à ce point... Enfin, moi j'ai une idée quand même de la grandeur de la France, de ce que ça veut dire la France. Enfin, je veux dire, on a une grande médecine, la France, quand même.
500 euros net, voilà de quoi franchir symboliquement un palier. À l'hôpital, le salaire moyen d'une sage-femme était de 2000 euros, il passe à 2500. Sauf que dans le détail, près de la moitié de la somme était déjà acquise par le Ségur et donc déjà versée. La nouveauté ici, ce sont les 240 euros de prime mensuelle qui sont promis à compter du mois de février. Mais c'est une prime, ce n'est pas du salaire. Et pour Caroline Combeau, secrétaire générale adjointe de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, ça fait toute la différence.
Il nous a bien été précisé aussi que en cas de maladie,
maladie, maternité, eh ben, la sage-femme, elle touche plus cette prime.
Mais ce que les syndicats professionnels de sage-femme regrettent, c'est qu'il n'y ait pas eu de négociation globale qui concerne tous les modes d'exercice de la profession et qu'on n'ait pas réexaminé les effectifs, les statuts et les conditions d'exercice. Caroline Combeau.
Les sous, c'est une chose, mais si on n'a pas les moyens de travailler correctement, ça ne sert à rien d'être bien payé.
Bref, je suis sage-femme. J'ai fait un an de médecine, 4 ans d'école et de stage, j'ai une profession médicale payée Bac plus 3. J'ai appris l'obstétrique, la pédiatrie, la gynécologie. J'ai fêté Noël au travail, c'était calme, j'ai pris 2 kilos. Bon, je le savais quand j'ai signé mon premier CDD. À l'époque, j'avais vu la DRH.
Bonjour, c'est mon salaire, hein, vous vous êtes pas trompée ?
Elle s'était pas trompée. Elle m'avait dit,
vous aurez bientôt un CDI.
J'ai signé. Ça fait 5 ans, j'attends toujours. En 12 heures, je peux faire 3 accouchements.
Juliette arrive !
Vas-y, pousse, il arrive !
Mais c'est super !
Vas-y, chérie, vas-y.
Passer d'une émotion à une autre.
Allez, on y va, on va manger un chocolat. Ouais, j'arrive.
Remplir la paperasse, surveiller les monitos, penser aux antibios, suturer, perfuser, informer le gynéco.
Il y a le docteur Dupont, là.
Aller à la césar des jumeaux.
Félicitations. Oh.
Dépister les maladies de la grossesse. Déclencher.
Tenez les filles, il y a 2 patientes à déclencher aujourd'hui.
J'ai regardé ma collègue, on a regardé nos salles libres, on s'est fait un gros câlin. J'avais pas bu, pas mangé et très envie de pipi. Bref, ne poussez plus. Le gouvernement a réussi à faire naître chez les sages-femmes colère et mal-être. Voici une parodie faite avec humour sur notre vocation vécue avec amour. Notre but, se présenter au public et voir enfin réagir les politiques qui semblent avoir oublié autour de leur table ronde qui les a aidés, eux et leurs enfants, à venir au monde. On va tenter de les faire accoucher d'un nouveau Ségur de la santé, alors s'il vous plaît, partagez.
Se considérant comme les oubliés du Ségur de la santé, les sages-femmes font partie, évidemment, des personnels indispensables dans les maternités encore en activité. Parmi les établissements dont la fermeture est souvent évoquée en Occitanie, il y a la maternité de Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, voisin du Lot. On y retrouve Magali Lacombe et Lucien Lefebvre.
Moi, je m'appelle Julie Audin, je suis sage-femme à la maternité de Villefranche-de-Rouergue depuis... environ 15 ans, bientôt 16 ans. Donc très attachée à ma maternité.
Dans quelles conditions vous travaillez aujourd'hui ?
Alors, c'est un peu difficile parce que on est obligé de revenir souvent sur nos repos, dans la mesure où il nous manque 4 sages-femmes pour tourner sereinement. Donc c'est sans arrêt revenir... sur des gardes de 12 heures, donc qui sont quand même éprouvantes, de jour comme de nuit, et avec en plus un autre facteur qui est le fait qu'on n'a pas de médecin vraiment résident ici, et du coup il faut s'ajuster, s'adapter à de nouveaux médecins en permanence, de nouveaux obstétriciens, qui n'ont pas toujours les mêmes façons de faire que nous, qui n'ont pas toujours les mêmes objectifs. Et donc ça complique un petit peu les choses. Et avec cette épée de Damoclès en permanence, de se dire, bon, est-ce que ce sera le dernier mois ? Est-ce que ce sera les 2 derniers mois ? Est-ce que l'année prochaine, on sera encore ouvert ? Voilà. Ça, c'est compliqué.
Et est-ce que vous réussissez systématiquement à avoir le sentiment du devoir bien accompli ?
Par rapport à nos collègues qui travaillent dans des grands centres où elles font 5 000, 6 000 accouchements par an, nous, justement, ici, on a encore le temps de prendre soin de nos patientes, de prendre soin de nos bébés, de leur donner ce temps-là. Et alors, bon, c'est pareil, c'est comme partout, il y a des coups de bourre, voilà, il y a des jours un petit peu plus chargés que d'autres. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait que nous, on reste ici, c'est qu'on a le sentiment de pouvoir encore faire notre boulot, quoi, comme il doit être fait.
Ce problème de pénurie de sages-femmes, il vient d'où ?
Alors, on entend un peu partout qu'on va avoir 500 euros de plus, etc. Bon, je passe sur les détails que c'est un mensonge éhonté. Mais il n'y a pas que le côté financier qui est important dans l'histoire. Pour rendre son attractivité au métier de sage-femme, il faut leur rendre leur métier, quoi. Parce que là, c'est devenu des techniciennes de je sais pas quoi, d'un pseudo-accompagnement médical qui n'a plus rien à voir avec ce que fait normalement une sage-femme. Donc, il faut revoir les décrets de périnatalité qui sont vieux comme Hérode et qui sont plus du tout adaptés aux besoins actuels et à ce que veulent les femmes aussi. Donc, ces décrets de périnatalité, je crois qu'ils datent de 96. C'est ce qui va déterminer le nombre de sages-femmes en fonction du nombre d'accouchements par an. D'accord ? Donc c'est ce qui fait que chez nous, pour 500 accouchements, il faut qu'on ait deux sages-femmes par 24 heures tout le temps. Mais la sécurité, elle passe aussi par le fait que la femme, enfin le couple, soit en confiance, que soit écouté, se sente respecté. Et ça, eh ben, il faut du temps. Il faut du temps, il faut être là. Voilà.
Ce qui explique qu'une maternité comme la vôtre soit déficitaire et oui. Donc menacée.
Ben oui, parce que ben, le forfait accouchement, ça doit être à peu près 350 euros et encore. Donc ça, c'est une femme qui accouche. Point. Bon, vous pouvez rajouter la péridurale, c'est un petit peu plus. Ça veut dire que si elle est là depuis 12 heures ou 18 heures, ça ne fait pas beaucoup de l'heure quand même. Hein? Donc on compte l'acte. L'acte, c'est l'accouchement. OK, mais on ne compte pas du tout tout ce qu'il y a autour. C'est ridicule. Si on n'est pas là, que vont devenir ces femmes ? Parce qu'il y a le côté maternité, mais il y a aussi le côté gynécologie, IVG. C'est un déficit d'accès aux soins qui sera énorme si on perd ça pour les femmes. Donc il faut vraiment qu'on s'accroche. Que mes collègues sages-femmes qui s'épuisent dans les usines à bébés de 5 ou 6 000 accouchements viennent ici se régaler. C'est une belle région et c'est une belle maternité qu'on a.
Bonjour, Madame Armand.
Bonjour, oui, c'est ça.
Bonjour,
très bien, enchantée. Albana, oui, oui, voilà. Très bien. Bah, vous, je vous laisse monsieur. Hein, Donc, en ce moment, on est en tension. Les urgences sont pleines et les lits sont pleins. Albana Rouille, je suis donc directeur par intérim depuis le 1er octobre 2021. Donc j'assure l'intérim de l'hôpital.
On est ici aujourd'hui parce que votre maternité, la maternité de l'hôpital de Villefranche, a failli fermer il y a quelques semaines. C'est quoi aujourd'hui la situation de la maternité ?
Actuellement, il nous manque 4 TP pour pouvoir fonctionner normalement. Il y a 2 postes vacants depuis le mois de juin. Il y a un agent qui a été suspendu suite à l'obligation vaccinale et un arrêt maladie. On a des difficultés de recrutement d'obstétriciens, puisqu'actuellement, on ne fonctionne qu'avec des remplaçants. On est un peu isolé à Villefranche. Hein. On est loin des villes moyennes, qui sont à 1 heure de Villefranche, et encore plus loin de Toulouse, qui est à 2 heures.
Et vous évaluez à combien aujourd'hui le niveau de menace qui pèse sur cette maternité ?
Ben, le niveau de menace, il est assez important parce que on n'a pas d'obstétricien et il n'est pas question d'avoir qu'une ligne de sage-femme alors qu'on doit avoir au minimum 2 sages-femmes jour et nuit. Et ce qui est aussi compliqué à comprendre, c'est qu'il faut savoir qu'une maternité de 12 à 14 lits qui réalise 500 accouchements génère automatiquement 1 million de déficits. Donc on supporte chaque année 1 million de déficits du fait de cette maternité qui est essentielle pour la population.
Vous, Albana Rouille, en tant que directrice par intérim de cet établissement hospitalier, quels sont les leviers que vous avez à votre disposition pour résister à cette menace ?
Alors actuellement, on résiste grâce à la pugnacité quand même des sages-femmes, qui sont polyvalentes, autonomes, très compétentes. Et heureusement qu'elles sont là et elles ont une capacité de s'organiser, à se réorganiser surtout, qui est exemplaire et qui nous a permis aussi de tenir jusque-là. Et on a aussi bénéficié d'un renfort des intérimaires, de sages-femmes libérales et puis les sages-femmes de Rodez aussi qui interviennent sur le CH de Villefranche pour nous aider à maintenir cette maternité.
Mais ce dispositif, il semble transitoire. Comment on peut imaginer une solution pérenne ?
Ça serait de mettre en place un pôle obstétrical territorial géré par le CH de Rodez. Mais il faut espérer que Rodez soit aussi attractif pour recruter des obstétriciens et des sages-femmes.
Ça voudrait dire qu'il y a un pool de sages-femmes et d'obstétriciens qui peut aller pallier les carences à droite à gauche sur le territoire de l'Aveyron.
C'est ça, tout à fait, oui. On mutualise en fait nos sages-femmes pour intervenir sur le CH de Villefranche, le CH de Rodez, et à plus long terme, parce que c'est plus compliqué, je pense, de mutualiser aussi des obstétriciens pour pouvoir intervenir à la fois sur Villefranche et sur Rodez.
Mais ce sont quand même des personnels supplémentaires, ce ne sont pas des personnels qu'on prend à droite pour aller les mettre à gauche.
Voilà, oui, bah voilà, il faut recruter, il faut que Rodez recrute davantage de sages-femmes, tout à fait, et davantage d'obstétriciens. Sinon, ça va être on ne va pas pouvoir monter cette équipe territoriale.
Et les budgets alloués sont suffisants ?
On est financé à l'activité. Donc, non, ils ne sont pas suffisants, puisque, enfin, en tout cas, pour des maternités, enfin, on est dans un effet de seuil qui est défavorable pour le CH de Villefranche, puisque 500 accouchements, ça génère, en termes d'activité, plus d'un million de déficits. Donc, non, c'est absolument pas. C'est des activités qui ne sont pas financées actuellement.
Quand vous prenez l'intérim de la direction, il y a quelques semaines, du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, est-ce que vous estimez que ce défi de maintenir ouverte la maternité est l'un des plus gros que vous avez à mener?
Enfin, en tout cas, il fait partie des plus gros. Parce qu'on a aussi un autre défi énorme qui est de moderniser le site de rue qui date des années 70 et il faut absolument moderniser ce site-là. Donc ça fait partie, on a deux gros chantiers à mener. Mais oui, la maternité, il faut la maintenir, c'est sûr. Comme notre territoire souffre d'un déficit d'attractivité, il faudrait peut-être, imaginer des rémunérations plus attractives encore pour les professionnels de santé qui interviennent dans les déserts médicaux.
Maternité rurale en voie de disparition, c'était un reportage de Magali Lacombe avec une prise de son de Lucien Lefebvre. Mixage Julien Douminc, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messoni. Un reportage déjà disponible sur franceinter.fr.